le rôle de l'armée, c'est d'abord celui d'être un rempart du régime parce qu'elle y trouve son intérêt. L'armée est un corps social, mais surtout une force économique dans la mesure où elle a accès à une grande partie des ressources de l'État hors de tout contrôle. Et en contrepartie, donc, c'est le chien de garde de ce régime. Donc les fraternisations qu'on nous a montrées à la télévision sont un petit peu trompeuses dans la mesure où c'est la population qui essaye de fraterniser avec les soldats, mais pas du tout l'inverse. Et en tout cas, quels que soient les sentiments des soldats du rang, les généraux, les gradés, eux, font partie vraiment de la garde prétorienne du régime et ils ont leurs propres intérêts à défendre. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas en train d'assister à une chute du régime, à une évolution sans doute accélérée par ces manifestations, mais l'armée est là pour s'assurer que les réformes se feront en bon ordre.
En revanche, la police a, elle, quitté la rue. Est-ce que finalement, ce n'est pas une stratégie de la part du président Moubarak ?
Tout à fait, c'est la stratégie de la peur. C'est une stratégie de division entre les intellectuels, les militants qui manifestent et la population, en particulier les classes moyennes qui peuvent avoir peur pour leurs magasins, pour leurs appartements. Alors, la population s'est organisée d'une façon très efficace et tout à fait remarquable au niveau des ruelles, des quartiers, des entrées d'immeubles. Donc la ville a été segmentée en micro-territoires, comme ça, avec des barrages partout, et ils ont dû lutter contre les pillards, les voleurs et les casseurs, qui sont en fait les forces de police qui ont juste changé d'uniforme et qui n'ont pas disparu, je dirais, spontanément du paysage, mais parce que le président a donné ses instructions au ministre de la police, parce que même si le gouvernement a été démis de ses fonctions, il a continué à travailler, bien entendu, et que l'Égypte n'est pas en vacances de pouvoir, mais dans un pouvoir clandestin qui cherche à semer la panique et le chaos, finalement, par la fermeture des banques, par l'épuisement des réserves d'essence, la fermeture des grands magasins et, bien entendu, cette insécurité nocturne qui vise à faire peur aux gens et à leur demander, à les inciter à se prononcer en faveur du retour à l'ordre. Mais le désordre vient du pouvoir.
Et est-ce qu'Al-Baradei, selon vous, a une chance de ramener une grande partie des manifestants, de la population, à sa cause ?
Je suis très sceptique parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun charisme, qui connaît mal l'état d'esprit de la population égyptienne et son état tout court, hein, les problèmes réels des citoyens égyptiens, et qui n'a pas de troupes, finalement. Il n'a pas de discours autre qu'un discours de réforme institutionnelle, et je pense que c'est pas ça l'essentiel pour les Égyptiens. Les termes de démocratie, de liberté sont vides de sens par rapport à la nécessité de trouver de quoi manger et de trouver des emplois pour les jeunes. Donc on a là des problèmes très concrets auxquels personne n'a de solution, évidemment, qui implique un changement radical de tout le système économique et social égyptien. Et ça, évidemment, ni le pouvoir, ni l'opposition n'y sont prêts, ni même n'y ont réfléchi.
On sait que l'Égypte est un pays stratégique avec le canal de Suez, sa frontière avec Israël. Est-ce que finalement un changement de régime radical, un changement radical de régime peut avoir des conséquences dramatiques à un niveau international ?
Je pense que les Égyptiens, toutes tendances confondues et islamistes compris, n'ont aucun intérêt à mettre en péril leurs ressources que sont le canal de Suez, que sont la paix finalement avec Israël. Et là, il y a un peu une réalité qui va se heurter au discours peut-être populiste et démagogue de tel ou tel segment des forces politiques. Hein. Les Israéliens et les Américains peut-être jouent à se faire peur ou peuvent avoir peur, mais a priori, il n'y a aucun intérêt pour les Égyptiens, à faire fuir les touristes occidentaux et à couper les relations avec le reste du monde et à mettre... Donc, la dimension politique régionale ou politique étrangère est totalement absente du débat actuellement.
Par contre, il y a des commentateurs comme les États-Unis qui appellent à la transition démocratique dans le pays. Est-ce que vous avez le sentiment que dans le futur, on pourrait voir les États-Unis qui lâcheraient Moubarak ?
Certainement pas. Je pense qu'ils ne lâcheront pas la proie pour l'ombre. Si au moins il y avait une alternative quelconque, ce serait envisageable. Mais il n'y a pas de parti d'opposition crédible, même si les partis d'opposition sont autorisés. On n'est pas dans le cas tunisien. Il y a une véritable opposition. Les frères musulmans d'un côté, bien entendu, mais il n'est pas question de faire quelque accord que ce soit avec eux, même si les frères musulmans, eux, sont demandeurs et jurent leur grand Dieu qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir et qu'ils ne veulent surtout pas déstabiliser ce système égyptien. Et puis, il y a des petits partis d'opposition, mais qui ne représentent rien. Donc, les Américains sont bien obligés, en tout état de cause, de s'appuyer sur Moubarak et peut-être à l'intérieur du système même, du système en place, du Parti national démocratique, s'appuyer sur des éléments peut-être plus jeunes ou plus ouverts à un changement. Mais ce changement ne réglera pas comme un coup de baguette magique les problèmes de l'Égypte, bien entendu, qui mettront des années à être résorbés. Hein, ces problèmes de chômage massif, ces problèmes de problèmes, je veux dire, d'absence de services publics, de services de l'État, d'éducation, de santé, toutes les atteintes à l'environnement, le travail des enfants, la prostitution des jeunes femmes, enfin, tout ce qui est le résultat de cette misère généralisée ne va pas, personne, avec les meilleures intentions du monde, ne va pouvoir y remédier en un tournement.
Donc finalement, Israël n'a pas vraiment de raison de s'inquiéter de l'évolution dans le pays.
De toute façon, s'inquiéter, oui, sans doute, mais ça ne ferait que reculer les échéances, que de se crisper sur la situation actuelle, qui est totalement intenable pour l'Égypte, pour le peuple égyptien, et aussi pour son gouvernement, qui a fait mine de ne pas voir ce que vivait son peuple, qui vit dans un exil intérieur, je dirais. Mais, bien entendu, la seule solution, je vous dirais, qu'il pourrait y avoir traditionnellement à cette situation de surpopulation et de sous-emploi, ça serait une guerre, mais il faut trouver un ennemi, ou bien ça serait une épidémie. Et la grippe qui a ravagé l'Égypte n'a pas, loin de là, résolu à résoudre le problème. Donc là, on parle de solutions telles qu'on en a connues au cours des siècles passés pour résorber ce type de crise. Mais là, il faut faire dans un système qui est mondialisé, où l'Égypte ne trouve pas sa place, avec des ressources modestes et une population en forte croissance.